Parfait. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate
Srila
Vasudevaya.
Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, 174. Okay, on commence au page 175. C'est là qu'on est rendu. Ananda, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Tamala Krishna, 33. Même l'érudit agit selon sa nature propre, car chacun agit selon la nature qu'il a acquise au contact des trois gunas. À quoi bon la refouler? Prabhupada. Donc, au moins, il est serviteur de sa nature. Il y a trois sortes de modes d'influence de la nature. Quelqu'un est dans la vertu, quelqu'un est dans la passion, quelqu'un est dans l'ignorance. Donc, dans l'ignorance, quelqu'un, disons, est intoxiqué. Il est le serviteur d'une certaine intoxication. Mais il pense, après s'être intoxiqué, Oh, je suis Dieu, je suis le maître. Vous voyez, c'est ce que l'on appelle se berner d'illusion. Il se fourvoie, il est le serviteur de son intoxication et il pense, Je suis Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas une farce? Pour un autre, ce sera par méditation qu'il sera Dieu. Si vous êtes Dieu, mais pourquoi méditer? Ils sont donc fourvoyés. La voie toute tracée est la suivante, être conscient de Krishna. Je suis le serviteur éternel de Dieu. Laissez-moi m'y absorber. Terminé. Voilà qui fait preuve d'une connaissance parfaite. Continuez. Tamala Krishna, 34. Il existe des principes aidant à maîtriser l'attraction et la répulsion que l'on éprouve pour les objets des sens. On ne doit se laisser dominer ni par l'attachement, ni par l'aversion, car ils font obstacle à la réalisation spirituelle. 35. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer parfaitement celui d'un autre. Mieux vaut échouer en remplissant son devoir que remplir celui d'autrui, car suivre la voie d'un autre est fort périlleux. 36. Arjuna dit, ô descendant de Vrishni, qu'est-ce qui pousse contre son gré l'homme au péché, comme s'il y était contraint? Prabhupada. Ici, Krishna dit que la destruction dans le cadre de l'accomplissement de son propre devoir est préférable à l'engagement dans les devoirs d'un autre, car suivre la voie d'un autre est fort périlleux. Or, Arjuna était un militaire, un kshatriya. Son métier consistait à se battre pour la bonne cause. Mais sur le champ de bataille, il se dit, pourquoi devrais-je m'engager dans cette activité meurtrière? Mieux vaut s'en retirer. Si je n'obtiens pas mon royaume, je préfère mendier. Cette activité de mendicité est pour nous, tout comme nous sommes sannyasis ou brahmanas. Nous sommes autorisés à mendier. Nous ne mendions pas, bien sûr, en tant que mendiants professionnels, mais nous nous présentons comme mendiants. La culture védique veut qu'un sannyasi, lorsqu'il vient mendier dans la maison d'un chef de famille, ce dernier le reçoit très respectueusement et tout ce que le sannyasi pourrait vouloir, il est prêt à lui offrir. Mais le sannyasi ne veut rien, mais il profite de l'occasion de s'asseoir dans la maison d'un chef de famille et de lui parler de la conscience de Krishna. Telle est la véritable raison de sa visite. Il n'est pas un mendiant. De toute façon, cette activité de mendicité n'est pas faite pour un maître de maison ou un militaire. C'est pourquoi Krishna dit, n'essaie pas d'imiter les affaires d'un sannyasi ou d'un brahmana. Tu es un kshatriya. Toi, ton devoir est de combattre, donc tu dois suivre ton propre devoir prescrit. N'essaie pas d'imiter les autres. D'ailleurs, on peut atteindre la perfection en étant engagé dans sa propre occupation, à condition de le faire dans la conscience de Krishna. Ainsi, Krishna lui demande de se battre. De plus, il est un combattant aguerri. Alors, s'il se bat conformément aux instructions de Krishna, ceci marquera sa perfection. Tel est le sens de ce verset. Continuez.
Est-ce qu'il y a
Tamala
des
Krishna.
questions ou commentaires jusqu'à date? Il y a, OK. On va commenter sur le verset 34. La façon que c'est traduit, c'est assez spécial. Alors, c'est à la page 175, la ligne 17. On va revenir en arrière. C'est ça. Alors, il existe des principes aidant à maîtriser l'attraction et la répulsion que l'on éprouve pour les objets des sens. On ne doit se laisser dominer ni par l'attachement, ni par l'aversion, car ils font obstacle à la réalisation spirituelle. Alors, si on va sur Vedabase, puis on regarde ce verset-là, de la Bhagavad Gita, c'est dans le chapitre 3, verset 34. Ici, on met ça en français. C'est intéressant. Alors, c'est un verset qui est bon. C'est comme ça. Alors, la traduction. Virginie, est-ce que tu voudrais lire? Le voyez-vous, le texte, Bhagavad Gita 3:34?
Oui, excusez-moi, j'avais pas mis le son. Oui, on le voit. Alors, il existe des principes aidant à maîtriser l'attraction et la répulsion que l'on éprouve pour les objets des sens. On ne doit se laisser dominer ni par l'attachement, ni par l'aversion, car ils font obstacle à la réalisation spirituelle. Ceux qui sont conscients, teneur et portée. Ceux qui sont conscients de Krishna ne sont pas enclins aux actes visant au plaisir matériel. Mais ceux qui ne le sont pas doivent, pour leur part, observer les règles prescrites dans les Écritures révélées. La jouissance matérielle sans restriction est la cause de notre emprisonnement au sein de la matière. Par contre, celui qui suit les principes régulateurs recommandés dans les Écritures n'est pas entraîné par les objets de plaisir. Le plaisir sexuel, par exemple, est nécessaire à l'âme conditionnée. Il est donc permis, mais seulement dans le cadre du mariage, selon les normes védiques. On ne peut avoir de rapport sexuel avec une femme autre que la sienne. On doit du reste considérer toute autre femme comme sa propre mère. Malgré ces règles, l'homme est toujours enclin à jouir d'autres femmes. Une telle tendance, si elle n'est pas réprimée, fera obstacle à la réalisation spirituelle. Tant qu'on possède un corps matériel, il est permis d'en satisfaire les besoins, mais en observant une certaine discipline, gardons-nous cependant de ne dépendre que de cette réglementation des plaisirs. Il faut suivre ces prescriptions, certes, mais sans attachement, car même sous contrôle, la jouissance matérielle peut nous égarer. Tout comme il y a toujours un risque d'accident sur une route parfaitement entretenue, car personne ne peut garantir qu'elle soit absolument sans danger. À cause de notre contact prolongé avec la matière, nous avons depuis très longtemps un goût pour le plaisir des sens. Et même si nous observons tous les principes régulateurs, nous courons toujours le risque de choir de notre position. Il faut donc éviter par tous les moyens de s'attacher à la jouissance matérielle, même réglementée. Mais l'attachement à la conscience de Krishna, où toujours on agit avec amour pour servir Krishna, permet de nous détacher de toutes les sortes d'activités matérielles. Comme le but ultime est de s'affranchir de l'attachement au plaisir des sens et d'atteindre la pure conscience de Krishna, on ne devrait jamais, sa vie durant, délaisser la conscience de Krishna.
Ouais. C'est beau, hein? C'est vraiment, vraiment pertinent ce verset-là. Et la teneur portée de Prabhupada, elle est bonne, c'est super. Alors voilà. Umegana Timarandasya Gananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben c'est pas toujours facile en fait. C'est difficile de toujours être sur la sur enfin quand on est comme moi je prends mon exemple complètement englué par rapport aux activités et tout c'est on est toujours sur ses gardes mais c'est pas facile en fait de ne pas comment dirais-je même si on fait attention. On est sans cesse soumis. Donc, même si on ne tombe pas, mais on est sans cesse soumis à des tentations, en fait.
Ouais. Alors, il y a, comment on peut dire ça? Il y a deux façons d'exprimer cette problématique. Alors, si on peut, disons, si on parle de difficulté, on peut dire il y a deux sortes de difficultés. Il y en a une, c'est soit d'être pas assez conscient de Krishna, puis l'autre, c'est d'être conscient de Krishna. Alors laquelle est la plus difficile ou la moins difficile pour résoudre le problème?
La plus facile, c'est d'être conscient de Krishna pour résoudre le problème.
Exactement. Alors, comme c'est expliqué ici en dernier dans la Tanna apportée, il faut donc éviter par tous les moyens de s'attacher à la jouissance matérielle, même réglementée, mais l'attachement à la conscience de Krishna tirait où toujours on agit avec amour pour servir Krishna permet de nous détacher de toutes les sortes d'activités matérielles. Comme le but ultime est de s'affranchir de l'attachement au plaisir des sens et d'atteindre la pure conscience de Krishna, on ne devrait jamais, sa vie durant, délaisser la conscience de Krishna. Ça résume tout. La réponse est là. Alors, c'est une question de degré ou d'intensification de la conscience de Krishna. Alors, comme on a discuté au cours de Upadeshamrita, ça peut être difficile justement de surmonter des idées, des concepts de gratification des sens. Mais en fait, le fond, c'est pas par cette avenue-là qu'on va. Si on reste, disons, trop fixé sur les problèmes des objets des sens, on est en train de manquer le bateau, en fait. La vraie chose, c'est de se concentrer sur le service qu'on fait à Krishna. Alors, il y a 9 méthodes pour servir Krishna. La première méthode, c'est d'écouter au sujet de Krishna. La deuxième, c'est de parler de Krishna. Et la troisième, c'est de se rappeler Krishna. Alors, il y a toujours, c'est ce à quoi on doit constamment vouloir se rabattre dessus. Alors, si il y a un manque de conscience de Krishna, il y a probablement aussi un manque d'écoute de sujet conscient de Krishna. Est-ce que ça répond à la question? Oui?
Oui.
Ah, c'est ça. C'est pourquoi il y a le chant du Mahamantra pour se garder dans l'association de Krishna, parce que justement le saint nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Mais est-ce, là on pose la question à 1000 points. Si quelqu'un chante Hare Krishna, est-ce qu'il va réaliser instantanément que le saint nom de Krishna n'est pas différent de Krishna? C'est quoi la réponse? La question, on répète, si quelqu'un chante Hare Krishna, est-ce qu'il va nécessairement comprendre instantanément
non.
que le Saint-Nom de Krishna n'est pas différent de Krishna?
Je dirais non, parce qu'au début, en fait, il n'est pas... on commet des offenses, donc on est...
Dépendant de la sincérité de la personne.
OK. Ananda, qu'est-ce que tu dis?
Moi, je dirais non. La première chose que j'avais en tête, c'est aussi parce que on peut au début commettre des offenses ou ne pas avoir, c'est ça, peut-être un manque de connaissances aussi. Ouais, mais je dirais non. Non.
OK. Mais la réponse est non. Et d'où est-ce que je prends cette réponse-là? C'est dans, donc, vu que je travaille sur le Upanishamrita Mantra 5, Srila Prabhupada écrit dans ce Mantra 5, ben, la teneur portée du Mantra 5, que ce n'est que graduellement, quelqu'un chante le Mantra Hare Krishna, et graduellement, il pourra comprendre que le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna. C'est un processus graduel. Alors, si la personne arrive un jour, excusez-moi, à vraiment comprendre que le Saint-Nom de Krishna n'est pas différent de Krishna, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Vous avez déjà répondu à 50% de la réponse, non? Dans ce qui vient d'être dit.
Ben, il commettra pas d'offense et il est, ce sera une relation plus pure avec le Seigneur suprême.
Exactement. Alors, si la personne réalise que le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna, alors c'est comme être devant les déités.
Mm.
Si on est devant les déités, est-ce qu'on va faire des bêtises? La réponse est non.
Ben non.
De un, c'est pas la place. De deux, c'est impossible, presque. Et puis, si la personne réalise que sur, c'est dit, lorsqu'une personne chante avec Krishna, Radha et Krishna dansent sur sa langue. Alors, ça aussi, c'est sujet à réalisation. C'est assez spécial, merci. Radha Krishna qui danse sur la langue d'un dévot lorsqu'il chante Hare Krishna. Alors, il y a une question de conscience qui entre en jeu. Et si le dévot est vraiment un dévot qui est très sincère, il va finir par comprendre ces choses-là et se tenir toujours comme dit l'expression française, ça, qui dit ça, se tenir à carreau, c'est ça?
Oui.
C'est ça, hein? Alors, il va se tenir à carreau, conscient de Krishna.
Mm.
Alors, comme c'est dit ici, dans la teneur portée qu'on a lue,
comme un peu un enfant aussi qui se tient à carreau devant des parents stricts.
Exactement. Alors, il y a des versets dans les Écritures védiques, justement, que les demi-dieux servent Krishna par crainte.
OK.
Alors, ils servent Krishna par crainte. Alors, même s'ils sont très puissants, Krishna est encore plus puissant. Alors, par crainte. Et même dans la Bible, il y a cette notion des hymnes, des prières, qui parlent souvent de crainte de Dieu. Et que même dans la Bhagavad Gita, Arjuna, il parle du Saint-Nom de Krishna, et il dit, les dévots sont très contents, sont heureux, tandis que les démons fuient par crainte. Juste à entendre le Saint-Nom de Krishna. Il y a un verset comme ça.
Mm.
dans la Bhagavad Gita. Alors, un dévot doit avoir une certaine crainte. Et ce genre de crainte-là n'est pas nocif, c'est pas une mauvaise crainte. Alors, un dévot, la crainte minimum qu'il devrait avoir, c'est la crainte de tomber. Le dévot alors, pour éviter une chute, le dévot va faire très attention et, comme on vient d'expliquer, il y a deux volets. Il y a un volet négatif, un volet positif. Les deux, c'est si on peut dire, c'est les deux côtés de la même médaille. Alors, de un, on évite telle chose, puis de l'autre côté, on prend telle chose. Alors, comme c'est dit ici, mais l'attachement à la conscience de Krishna, où toujours on agit avec amour pour servir Krishna, ça, c'est l'élément principal. Pour l'amour de Krishna, pour l'amour du maître spirituel, on va, comme c'est dit ici, permet de nous détacher de toutes les sortes d'activités matérielles. C'est par amour pour Krishna et le maître spirituel que, disons, l'impossible devient possible. Alors, l'impossible, c'est quoi? C'est quoi l'impossible? On a lu un peu aujourd'hui là-dessus.
D'être complètement détaché de toute attraction qu'ont les sens pour leurs objets.
Ça, c'est une chose. Mais l'impossible dans la vie matérielle, c'est quoi? Qu'est-ce qui est impossible dans la vie matérielle? À moins d'être conscient de Krishna.
La libération du monde matériel, c'est libéré.
Oui, mais le monde matériel est fait de quoi?
De l'énergie de Krishna.
Oui, l'énergie de quoi qui est faite de quoi?
Des trois gunas.
Des trois gunas. C'est impossible d'être libéré de l'influence des trois gunas à moins d'être conscient de Krishna. Alors, comme Krishna dit dans le Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 14, si je ne m'abuse, il dit « Nul ne peut surmonter l'influence des trois gunas à moins qu'on s'abandonne à moi. » Alors, il y a un verset comme ça dans le Bhagavad Gita. Alors, le dévot a cette... Et il y a des prières, même une prière de Srila Prabhupada que j'ai lue à un moment donné, où Prabhupada demande à Krishna de ne pas le plonger dans l'oubli. Ça aussi, c'est dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce que Krishna dit? De moi, je suis situé dans le cœur de chacun. De moi viennent la connaissance, le souvenir et l'oubli. Alors, si Krishna veut faire oublier quelqu'un, là, ça va être longtemps avant qu'il se rappelle de qu'est-ce qu'il devrait se rappeler. Alors, c'est la grâce de Krishna que quelqu'un, premièrement, vienne en contact avec un pur dévot et qu'il apprenne la science de la conscience de Krishna. C'est la grâce de Krishna. Alors, par la grâce de Krishna, c'est le verset qui dit ça, par la grâce de Krishna, on obtient un maître spirituel. Et par la grâce du maître spirituel, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Krishna. Alors, un va avec l'autre. C'est impossible sans la miséricorde de un d'avoir l'autre. Et comme Krishna dit, celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot, mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, celui-là est mon dévot. Alors, la miséricorde d'un maître spirituel, là, c'est vraiment très, très, très important. Et dans la vie spirituelle, pratiquement parlant, ça se traduit par faisons plaisir au maître spirituel d'abord, puis ensuite, Krishna va être satisfait. Et le mouvement, puis la conscience de Krishna, les les débuts du mouvement de la conscience de Krishna, c'est des débuts, disons, si on peut dire, hors normes. Ça se compare pas avec des entreprises matérielles, parce que c'est basé sur l'amour, le dévouement, la dévotion pour une personne centrale qui était sur le Prabhupada. Un dévot était prêt à faire n'importe quoi pour Prabhupada. Et c'est la dévotion qui veut ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Là, on est rendu à... Virginie, veux-tu continuer?
On était...
Moi, c'est la page...
On était sur...
176. Je vais demander ça d'être là. OK.
11, je
c'est
crois.
C'est ça, voilà. Ouais. Après, continuer, en fait.
Ouais. 176, c'est ça?
Mm-hmm. 176, ligne 11.
Ouais. De toute façon, c'est là qu'on était, non?
Ben, qu'on... Oh, ben, je peux le reprendre. Hein. De okay. toute façon, cette activité de mendicité n'est pas faite pour un maître de maison ou un militaire. C'est pourquoi Krishna dit, n'essaie pas d'imiter les affaires d'un sannyasi ou d'un brahmanade. Tu es un kshatriya. Toi, ton devoir est de combattre. Donc, tu dois suivre ton propre devoir prescrit. N'essaie pas d'imiter les autres. D'ailleurs, on peut atteindre la perfection en étant engagé dans sa propre occupation, à condition de le faire dans la conscience de Krishna. Ainsi, Krishna lui demande de se battre. De plus, il est un combattant aguerri. Alors, s'il se bat conformément aux instructions de Krishna, ceci marquera sa perfection. Tel est le sens de ce verset. Continuez. Tamala Krishna, teneur et portée. Parce qu'il fait partie intégrante du Suprême, l'être est originellement spirituel, pur et libre de toute contamination matérielle. Par nature, il n'est donc pas sujet au péché de ce monde, mais au contact de la matière, il s'adonne sans hésitation à toutes sortes d'activités pécheresses, parfois même contre son gré. La question d'Arjuna concernant la nature pervertie des êtres vivants est donc particulièrement appropriée. L'homme se voit parfois contraint de commettre des méfaits sans l'avoir désiré. Or, ces actes coupables ne sont pas provoqués par l'âme suprême. Ils ont, comme l'explique le Seigneur dans le prochain verset, une toute autre cause. 37. Dieu, la personne suprême, répond. C'est la concupiscence seule, Arjuna, qui naît au contact du guna de la passion et qui, par la suite, se transforme en colère. Immense péché, elle est l'ennemi dévastateur du monde. Prabhupada, oui, la passion. Si vous vous laissez gagner par la passion, lorsque vous ne pourrez la satisfaire, la colère s'emparera de vous. L'une engendre l'autre. Ceci est ainsi dû au fait que nous sommes sous l'empire des modes de la passion. Comme je vous l'ai dit, il y a trois types de modes dans la nature matérielle. L'une est la vertu, l'autre la passion et le troisième l'ignorance. L'ignorance est donc la qualité la plus basse. La passion est mieux que l'ignorance et la vertu est la qualité la plus élevée dans ce monde matériel. Et il faut transcender même la vertu. C'est alors qu'on peut accéder au niveau de la conscience de Krishna. Il ne faut donc pas rester au niveau de la passion. On doit essayer de s'élever au niveau de la vertu. Et de là, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. C'est une façon de faire. Mais si vous vous engagez directement dans la conscience de Krishna, alors vous transcendez automatiquement les niveaux de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Continuez.
Il y a des questions, des commentaires? Souvent, on pense que La conscience de Krishna, c'est comme ne plus avoir affaire avec la passion, l'ignorance. C'est facile à comprendre. Ensuite, il y a la vertu. Ça, c'est une question de purification jusqu'à un certain point parce que quelqu'un pratique la conscience de Krishna. Et, comme c'est dit ici, au-delà des trois gunas, c'est dit ici, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi les symptômes, si on peut dire, ou les signes? S'élever au niveau de la conscience de Krishna. Comment on peut dire ça en d'autres mots? Est-ce qu'on peut penser, ah, maintenant je suis arrivé au niveau de la conscience de Krishna. Est-ce qu'on peut penser à ça, comme ça?
Non.
Si on est rendu à ce niveau-là, on peut pas dire ce mot-là.
Ben oui.
Il y a l'ego qui est dedans.
Oh boy, là j'ai soulevé quelque chose là. Ananda, qu'est-ce que tu en penses?
Non, ben c'est on peut non on peut pas dire ça à ce niveau-là. Si on a atteint ce niveau-là, je rejoins Madame Ananda.
Non, moi je suis pas d'accord, moi.
Ok.
Moi je suis pas d'accord. Moi je dis oui. On doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Est-ce qu'on peut penser qu'on est arrivé à s'être élevé au niveau de la conscience de Krishna? Moi, je dis oui. On doit dire oui. Sinon, pourquoi on pratique la conscience de Krishna? Si en bout de ligne, on pense que non, j'y arriverai jamais, c'est impossible.
Mais c'est pas l'ego qui parle dans tout ça, là. Je suis arrivé, mais on peut pas rejoindre Krishna, veut dire, il est infini, on peut pas
on est en train de faire du gâteau, là. On mélange tout, là. Dans le sens que, en fait, c'est très simple. On reprend le passage, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Bon, on recommence le paragraphe. Il ne faut donc pas rester au niveau de la passion. Est-ce que c'est difficile à comprendre, ça?
Bon. Non, non.
On doit essayer de s'élever au niveau de la vertu. Ça aussi, c'est une vertu matérielle ou une vertu qui est un dérivé de la conscience de Krishna. Alors, on doit essayer, comme c'est dit ici, on doit essayer de s'élever au niveau de la vertu. Et de là, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Et si on veut s'élever au niveau de la conscience de Krishna, ce qui est dit ici, là, sans le dire, c'est que c'est impossible si on n'est pas au niveau de la vertu. Oui, pure vertu, là, mais au moins, disons, comprendre quelque chose que la vertu a à voir avec ça. Alors, quelle est une des caractéristiques de la vertu? C'est que la vertu permet de développer la connaissance. Alors, si on n'a pas de connaissance plus qu'il faut, on n'aura pas grand-chose à savoir qu'est-ce qui dépasse ou transcende même la vertu. En fait, il faut avoir la connaissance de la conscience de Krishna pour vraiment y arriver. Et on recommence sur le point ici. On doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Mais ça, est-ce qu'on peut le sentir à tous les jours? Ou c'est mission impossible, jamais, jamais je vais sentir ça. Soit oui, soit non.
Oui, on peut le dire.
La réponse est oui.
Mm-hmm.
Alors, la réponse est oui. Dans le sens que, si je, comme en ce moment, là, on est, moi, je suis en train de parler de Krishna, du Ko, patati patata. Et vous autres, vous écoutez. Et ça, c'est quoi, ça?
Ben, c'est justement,
du nectar de dévotion.
All right. Alors, ça, c'est un exemple. Comme c'est dit ici, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Alors, supposons que je dis pas que c'est ça, là, mais disons, pensons un petit peu en arrière avant d'être conscient de Krishna, là, la vie qu'on a menée avant d'être conscient de Krishna, OK? Alors, ce genre de vie-là, tu peux te lever un bon matin puis avoir la chanson de la veille que tu as écoutée à la radio ou à la télé, puis c'est avec ça que tu vas commencer ta journée. Est-ce que ça se peut, ça? Ben, moi, je dis que ça se peut.
Oui, c'est possible.
Alors, tu sais, les chansons populaires, là, les disques, c'est ça, les disques, toi, les chansons populaires, c'est exactement pour ça. Alors, t'as rien à mettre dans ton mental, mais au moins tu peux te mettre une mélodie, une chanson, puis ça va occuper ta journée, ton mental. Puis tu vas dans les salles d'attente, tu vas chez le médecin, tu vas à l'hôpital, tu vas dans n'importe quelle boutique, ils mettent de la musique. Puis là, si ton mental, tes oreilles s'accrochent à ça, ben tu vas suivre, puis tu vas être embarqué, puis tu vas suivre le courant. Par contre, si tu es dans une situation comme ça, puis tu dis, ah, moi je préfère chanter Hare Krishna, et tu chantes dans ton fort intérieur Hare Krishna, parce que justement, du côté externe, c'est peut-être pas tout à fait propice à chanter Hare Krishna, mais dans ton cœur, dans ta conscience, tu le vois très bien, là. Il y a une dualité, là, à savoir, soit tu veux être conscient de Krishna, ne pas oublier Krishna, glorifier Krishna, être en contact avec Krishna par le son, par la récitation du Maha Mantra, ou tu peux te laisser aller, t'es vaincu, c'est bye-bye la visite, oublie la conscience de Krishna, embarque dans l'environnement, puis à la fin du compte, tu te rends compte, ah, j'ai perdu mon temps. Le temps que la vie humaine est une occasion en or pour cultiver la conscience de Krishna. On a X heures à notre disposition selon notre destinée. Et si on n'en profite pas à chaque moment, on se trouve à perdre ce temps-là. On n'a pas toujours conscience que le temps passe et ce temps-là devrait être pour cultiver la conscience de Krishna. On n'a pas toujours ça, cette conscience-là, parce que l'énergie matérielle est forte et puis elle est entraînante et puis on peut oublier facilement. Mais, comme c'est dit ici, peut-être vous serez pas d'accord, mais moi je dis, on doit, mais c'est pas moi qui le dis, là, c'est Prabhupada, c'est une classe de Prabhupada, ça. Prabhupada qui dit, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Alors, pourquoi? Si on veut s'élever au niveau de la conscience de Krishna, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a plusieurs réponses pour ça.
C'est juste de penser à Krishna, dans n'importe quelle façon qu'on peut.
Oui. Mais supposons qu'on peut pas penser à Krishna. Ça, c'est une question qui a été posée à Srila Prabhupada. Supposons qu'on n'est pas capable de penser à Krishna. Un dévot a posé cette question-là spécifiquement à Srila Prabhupada.
On va s'engager à servir Krishna. Donc, tout ce qu'on va faire, on va le faire pour Krishna.
Oui. Mais supposons que tout ce qu'on va faire, c'est pour servir Krishna. Mais on pense pas à Krishna pendant qu'on le fait.
Ah. Ça paraît un peu.
Ah.
Ben, je vois
Je
bien.
le pose comme une colle, mais je vais aller. Ananda, qu'est-ce que t'en dis?
Ben, c'est une situation un peu, je sais pas trop parce que ça paraît impossible puisque normalement, si tu t'abandonnes vraiment, ben, dans n'importe quelle situation, ton dernier recours, c'est Krishna. Même si pendant certaines secondes, tu n'y penses plus, mais voilà, je sais pas, ça paraît, non.
Ouais, mais supposons qu'on met le dernier moment on est hors de piste là, ou à côté. Puis on parle dans le moment présent là. Si on n'arrive pas à penser à Krishna, un dévot a posé cette question à Srila Prabhupada et voici la réponse de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada a répondu. Il dit, à ce moment-là, il dit, pensez à un dévot qui pense à Krishna. Alors, si vous pensez, ah, je ne suis pas capable de penser à Krishna, mais vous pensez à un dévot qui, lui, pense à Krishna, et entre autres, chez le Prabhupada, ben, automatiquement, vous devez être conscient de Krishna. C'est comme par exemple, si vous écoutez des classes de Prabhupada ou si vous visionnez des promenades matinales de Srila Prabhupada, quand vous visionnez une promenade matinale de Prabhupada, c'est comme être avec Prabhupada par le médium qui est le film ou le vidéo. À ce moment-là, comment vous ne pouvez pas penser à Krishna? En tout cas, quand les dévots étaient en promenade matinale avec Srila Prabhupada, la première des choses, c'est que les dévots se disent, faut pas que j'aie l'air fou, là. Sans que personne ne le dise ou ne le formule, c'est automatique, c'est hey, j'ai besoin d'être conscient de Krishna parce que je suis avec Prabhupada juste à côté, là. Alors, quand quelqu'un est avec Srila Prabhupada, il y a des questions. Parce que le maître spirituel est là pour ça. Le maître spirituel, lui, s'attend à ce que les disciples vont lui poser des questions. Et les disciples ne peuvent pas poser n'importe quel genre de questions. Tu sais? Ils sont avec le maître spirituel. Est-ce qu'ils vont poser la question, combien de profit a fait la compagnie du coin avec ses ventes? Ils vont pas poser des questions comme ça. Il faut qu'ils posent des questions sur la vérité absolue, sur Krishna. Et le maître spirituel s'attend à ça et le disciple devrait être dans cette mentalité-là. Alors, comme par exemple, le Srimad Bhagavatam, c'est quoi? C'est Maharaj Parikshit qui a accepté Sukadev Goswami comme son maître spirituel et Maharaj Parikshit a posé une question, juste une. La question principale, quel est le devoir d'un homme sur le point de mourir. Juste cette question-là. Il y en avait d'autres, là. Mais cette question-là principale, c'est ça qui démarre le Srimad Bhagavatam. Ce sont des sujets qui sont situés au niveau spirituel. Et dans la Bhagavad Gita aussi, Arjuna, des fois, il pose des questions à Krishna et Krishna va répondre. Alors, c'est ça la vie spirituelle. Alors, quand on a conscience qu'on est en train de faire un service à Krishna, tu sais, qu'on peut faire la comparaison dans notre tête, à savoir, ah, là, je préfère chanter Hare Krishna que d'écouter de la musique matérielle. Je préfère faire ça. C'est notre choix. On doit être conscient qu'on a fait un choix. C'est pas comme ça que ça devrait aller?
Vous avoir tranché, en fait.
Oui, savoir trancher et savoir qu'on a tranché, puis être content avec le choix qu'on a fait, et puis pas regarder à gauche, à droite, en avant, en arrière, en dessous, etc., etc. On doit être content. Oui, j'ai fait ce choix-là. La conscience de Krishna est basée sur un choix, le choix de vouloir servir et aimer Krishna et suivre les instructions du maître spirituel. Alors, on doit être conscient de ça, puis être heureux comme ça. Alors, la difficulté, si difficulté il y a, c'est lorsqu'il y a un doute qui vient se mêler dans ça. À savoir, mettons, comme c'est dit, ça a été parlé ici, là, l'attraction pour les objets des sens. D'un coup, ça vient s'immiscer dans ce genre de conscience-là. Ça sera pas la première fois. Ça sera pas la dernière fois. Parce que, justement, c'est pas si facile que ça de garder son esprit fixé sur Krishna. Mais lorsqu'on le fait, on doit être conscient. Oui, j'ai choisi. Ça me fait plaisir de le faire. Et on continue à le faire. Parce que on savoure, on a cette satisfaction, Krishna est content, Krishna nous regarde tout le temps, Krishna est témoin de toutes nos pensées, de toutes nos actions, de toutes nos intentions, et il est réciproque avec nous. Alors, l'abandon à Krishna, ça sous-entend qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, qu'est-ce qu'on garde dans notre cœur, et qu'est-ce qu'on veut éliminer de notre cœur qui n'est pas plus conscient de Krishna qu'il faut? Puis Krishna, il voit tout ça et il est sproc. Est-ce qu'on peut duper Krishna?
Ben non.
La réponse est non. On peut pas tromper Krishna. Non. On peut se tromper soi-même, mais on peut pas tromper Krishna. Alors Krishna, il sait exactement où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on a l'intention d'être situé ou l'intention d'aller. Puis, il est réciproque en conséquence. Si on veut être dans Maya, Krishna va nous donner l'intelligence pour être dans Maya. Et si on veut venir à lui, Krishna va nous donner l'intelligence pour être avec lui, pour être conscient de Krishna. S'il y a des questions, des commentaires. Alors, oui?
Par manque de détermination aussi, tu parlais tout à l'heure de... Mais c'est la détermination qui est importante aussi. Il faut vraiment être déterminé dans sa.
Ouais. Alors, ça c'est un bon sujet parce que justement je pensais à ça cette semaine. Puis je me disais, la détermination, est-ce que c'est une question momentanée? Ou qu'on voit à court terme. Ah, je vais être déterminé dans un certain laps de temps. Puis après, je n'y pense plus. C'est quelque chose que je suis pas obligé d'être vraiment conscient d'être déterminé.
Non, mais au départ, c'est important.
Ou si c'est la détermination, c'est un engagement à long terme, en fait, qui devrait être irréversible si on veut être vraiment pleinement conscient de Krishna. À ce moment-là, ça devient de la conviction qui est imbrisable. Alors, notre détermination, ça devrait atteindre ce niveau-là où on peut pas être brisé. Alors, qu'est-ce que Krishna dit de ses dévots et qui a un certain lien avec justement la détermination des dévots? Alors, Krishna, il dit à Arjuna, il dit, déclare-le au monde entier, jamais mon dévot ne périra. Ça veut dire que c'est Prabhupada donne une explication à qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça implique. Cette affirmation-là. Jamais mon dévot ne périra. Est-ce que ça veut dire que le dévot ne va jamais mourir? Que le dévot n'aura jamais d'accident? Que le dévot ne sera jamais, disons, vaincu ou torturé par ses ennemis? Est-ce que ça veut dire ça?
Non.
Non. Ça veut dire que, Prabhupada explique, ça veut dire que au niveau de la conscience, jamais le dévot ne va dégrader à un tel point qu'il oublie la conscience de Krishna. Alors, ça se peut que le dévot ait des oublis passagers, mais Krishna est dans le cœur du dévot et va toujours faire en sorte que de ramener le dévot à être conscient de Krishna. Alors, parfois, les dévots vont penser, ah, il y a certaines difficultés sur mon chemin. Et les dévots vont voir là-dedans, ça, c'est la grâce de Krishna. Pour m'obliger à être plus conscient de Krishna. Alors, il est dit, si Krishna vous aime, il vous donne tout. Mais si Krishna vous aime vraiment, qu'est-ce que Krishna va faire?
Il enlève tout.
Il enlève tout. Alors, c'est pourquoi Krishna est appelé Hari. Hari veut dire celui qui enlève tout. Alors, Krishna enlève tout pour ceux qui l'aiment vraiment. Alors, il enlève toutes les... On peut dire, comment dire en québécois, là, toutes les niaiseries qui n'ont pas rapport avec les petites choses qui font que la personne oublie Krishna. Krishna va tirer le tapis en dessous des pieds. Fini. Envoyez ça aux poubelles, ces affaires-là. C'est la grâce de Krishna. Et un dévot qui est vraiment sincère et pas nécessairement aussi soumis qu'il pourrait penser l'être ou voudrait l'être, à un moment donné, il va apprécier. Ça, c'est la grâce de Krishna. J'ai été obligé d'être conscient de Krishna. Il y a des occasions dans la vie que c'est le genre de réflexion qu'un dévot peut avoir. Et voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, des expériences comme ça?
Moi, ça m'est arrivé avec l'accident que j'ai eu.
Oui.
Ça a changé ma vie complètement. C'était Krishna, il n'y avait rien d'autre parce que j'ai vu que mon corps ne pouvait pas avoir aucun plaisir sensoriel. Que j'avais plus le corps. Alors, je me suis abandonné dans le plaisir de penser à Krishna. C'était la seule sortie de pas capoter, là. De pas devenir fou, là.
Mm-hmm.
C'était une grâce qui m'a fait. Il a changé ma vie complètement.
Virginie, tu allais dire quelque chose?
Oui, pareil aussi au départ du papa d'Ananda. En fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre voie et d'autre issue, en fait, que de suivre la conscience de Krishna et de redoubler d'efforts, hein, parce que rien d'autre ne valait la peine, ni le coup.
Oui, d'accord. Ananda, quelque chose?
Ben, c'était aussi ce moment-là de ma vie, voilà. Donc, ça m'a... Il n'y avait pas d'autre échappatoire et d'autre, je dirais, meilleur thérapeute que ouvrir la Bhagavad Gita et plonger pleinement, ouais.
Moi, personnellement, je peux dire, c'était pas des circonstances de changement absolu comme ça. Mais je peux dire, quand j'étais en France, j'étais sur la route pendant 6 ans à faire du Sankirtan, à distribuer des livres, vendre des livres pour ISKCON, France. Et Il est arrivé que on a eu des accidents, justement, de voiture, au moins 5 ou 6. Et à chaque fois qu'il arrivait un accident, la question était toujours la même. Est-ce que je pensais à Krishna au moment de l'accident? Et peut-être, je dirais peut-être la moitié de ça. Tu te rends compte, ça arrive tellement vite et tellement, comme on dit en langage de dévot, spaced out. T'es pas concentré. T'as beau être avec des dévots, mais t'as oublié Krishna quand c'est arrivé, l'accident est arrivé. T'es comme pris au dépourvu. Alors, une fois, on était, c'est ça, toujours la même chose, traveling Sankirtan. Et un dévot qui conduisait et qui était plus ou moins endormi. Ça, c'est les dévots, ça. Et ils vont conduire pareil, même s'ils cognent plus ou moins des clous déjà debout. Alors, mais ça, on ne sait pas, là. Le dévot, il a rien dit, là. Il n'a pas dit, je suis pas en mesure de conduire. Et jamais tu vas entendre ça. Alors, pour une raison ou pour une autre, on est dans un village en France. Et puis les villages en France, c'est ce que c'est. Une maison qui fait le coin, elle fait tellement le coin qu'il n'y a pratiquement pas de trottoir. C'est la maison qui fait le coin avec la rue. Et là, il y a un stop en plein sur le coin. Et la maison est tellement sur le coin, là, il n'y a pas de trottoir pratiquement. Tu peux pas voir les véhicules qui s'en viennent à ta de la droite vers la gauche. Tu peux pas voir. Et lui, il a raté ce stop-là. Alors, l'auto continue son chemin. On avait un minibus Volkswagen à ce moment-là. Et bang! Une voiture qui arrive dans l'autre sens, nous, en plein au beau milieu de ça, qui nous frappe. Notre minibus Volkswagen fait... il appelle ça un tête à queue. Ça nous a frappé en plein du côté, ça c'était mon côté à moi, là. Côté passager en avant à côté du conducteur. Et là tu te rends compte justement, il y a un accident. Par la grâce de Krishna, je m'en suis tiré. Disons, pas mal, avec presque rien, cette affaire-là. Là, tu te poses la question, est-ce que je pensais à Krishna ou pas? Et puis, je sais que pendant ça allait arriver... Non, c'est un autre accident, c'est ça. Ça, c'est cette... On s'est ramassé à l'hôpital, moi puis un autre dévot, on s'est ramassé pendant 2 jours, je pense, à l'hôpital. Histoire qu'ils nous soignent, puis qu'ils ne nous laissent pas aller tant qu'ils sont pas sûrs. C'est ça. Je pense bien que j'ai chanté Hare Krishna à ce moment-là. Et puis, dans un autre accident qu'on rentrait de Bretagne à Paris, les véhicules circulaient à 100. Nous, on allait à 110 km à l'heure. Puis, tout d'un coup, sur une autoroute qui rentre à Paris d'à peu près aux 5 ou 6 lignes, tu sais, des voies, là. D'un coup, ça freine sec en avant de nous. Et là, c'était évident qu'on va rentrer dans le véhicule d'en avant parce que c'est comme ça qu'on conduit en France. Les gens font pas attention. Les gens respectent pas la distance entre les véhicules plus qu'il faut. Puis là, je la voyais venir. Là, l'accident s'en vient. On va rentrer dans l'autre. Et là, je me suis penché la tête parce que je savais dans l'autre accident que j'avais eu avant, faut se pencher la tête. Penche la tête, mets mes mains comme ça. Et là, je chante Hare Krishna, je chante fort. Puis c'est arrivé, la voiture scrappée, comme on dit, en avant. C'est bon pour la fourrière. Et encore là, pas beaucoup de... un peu dégratigneux sur les genoux, mais pas pour aller à l'hôpital. Et puis, Mais là, je sais, cette fois-là, je pensais à Krishna dans cet événement-là. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Krishna nous prépare. Il y a des circonstances, Krishna nous montre, « Ah, pensais-tu à moi ou tu pensais à d'autres choses? » Alors, il faut être conscient de Krishna. Et c'est la vie. Tout ça, c'est une préparation. Un jour, on va devoir quitter ce corps matériel. Et puis, si on est conscient de Krishna, ben tant mieux. Puis, si on oublie, ben ça va être meilleure chance la prochaine fois. Ça va être, à moins que Krishna il veuille nous prendre tout de suite, là, même si on a oublié, mais en principe, c'est ça, là. Krishna il dit ça. C'est, n'importe quel souvenir au moment de la mort détermine le prochain corps. Mais par contre, si quelqu'un pense à moi seul, Krishna dit, celui-ci vient à moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la grâce de Krishna quand Krishna nous permet de donner le souvenir. Alors, c'est à nous d'avoir confiance, d'avoir confiance dans le processus, d'adopter le processus. Le processus, comme Krishna dit, pense, emplis de moi, emplis toujours de moi ton mental, donne-moi tes hommages, voue-moi ton adoration, et ainsi, étant pleinement absorbé en moi, certainement tu viendras à moi. Alors, si on le fait, si on fait vraiment ça, puis ça, Prabhupada dit, c'est l'essence de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 34. C'est le verset pratiquement le plus important de la Bhagavad Gita, à part 1866, là. Alors, c'est ça, là, comme on dit ici. On doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Ben, le moyen, c'est ça. C'est le chant de Krishna, l'association des dévots, l'adoration du maître spirituel, le service du maître spirituel. C'est voilà. L'absorption dans les écritures, dans l'étude des écritures. Écouter, parler de Krishna entre dévots. C'est conscient de Krishna, ça. Alors, lorsqu'on fait ça, qu'on est absorbé comme ça, on n'est pas situé au niveau matériel, là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui?
J'ai eu la même réflexion comme vous avez eu. Si j'ai pensé à Krishna après que j'ai eu l'accident, là, dans l'hôpital, j'ai dit, mais... Ça, j'ai été frappé, je m'attendais pas d'avoir quelqu'un qui me rentre dedans. Alors ça m'a fait penser, faut que j'ai une conscience de Krishna constante. Comment faire ça, tout ça là, c'est parce qu'on sait pas quand on va partir, on n'a aucune idée comment on va partir premièrement. Alors c'est d'avoir cette conscience constante de Krishna dans tout, penser à lui, voir Krishna partout, c'est un travail d'une vie ça.
Ouais, exactement. Un travail d'une vie, et puis lorsqu'on est justement conscient qu'on a fait un effort ou qu'on est en train de faire un effort pour être conscient de Krishna, ben c'est merveilleux. Parce que c'est ça qu'on doit faire. Alors, il n'y a pas d'égal au niveau matériel. Tu sais, c'est comme on dit ici, là. Bon, on recule en arrière, là. On s'est dit, on doit essayer de s'élever au niveau de la vertu. Et de là, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Mais au niveau de la vertu, est-ce qu'il y a de la promotion dans la société? Qui fait la promotion de la vertu? La réponse est oui ou la réponse est non?
La société actuelle fait-elle la promotion?
Dans la société en général, peu importe où dans le monde, là.
Non, je trouve pas que dans le Kali Yuga, on fasse la promotion de la vertu.
D'accord. Comme Prabhupada dit ça, dans le Kali Yuga, la vertu est pratiquement inexistante. Mais, il y a des endroits où la vertu matérielle est mise à l'honneur. Ils en font comme une promotion. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, vous allez dans un magasin ou une boutique d'aliments naturels. Alors, tout de suite en partant, c'est quoi qui est la promotion? C'est un mode de vie dans la vertu. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mode de vie qui est conscient de Krishna, ça. Parce que, mettons, tu vas dans le rayon des... Moi, personnellement, je vais, là. Tu vas dans le rayon des céréales, tu vas avoir une bonne qualité de céréales, etc., etc. Oui, c'est mieux, mais il y a personne qui t'écrit en quelque part dans l'allée, ben, n'oubliez pas d'offrir ça à Krishna. Il y a personne qui te va te dire ça. Et quand tu vas dans un magasin comme ça, tu sais, c'est pas le supermarché ordinaire de Monsieur Tout-le-Monde, là. C'est une boutique spécialisée en produits naturels. Tu vas payer pour, tu vas avoir la qualité. Mais il n'y a pas de conscience de Krishna. Ça peut être propice à la conscience de Krishna, mais il n'y a pas de promotion de la conscience de Krishna. C'est une boutique comme une autre au niveau du commerce. Tu achètes des biens, tu les mets dans ton magasin, tu les exposes, tu les vends. Le client achète, bonsoir, la visite, il est parti. Il va revenir s'il aime ça. C'est du commerce. Mais qu'est-ce que le dévot va faire s'il va dans un magasin comme ça? Il peut acheter ce qu'il veut, ce qu'il pense qu'il est dans la vertu, justement, mais il va l'utiliser pour faire une offrande à Krishna. Dans ce moment-là, ça change de niveau. Ça passe de la vertu et, comme c'est dit, Prabhupada dit, on doit s'élever au niveau de la conscience de Krishna, de là. De la vertu, on doit essayer de s'élever au niveau de la conscience de Krishna. Ça, c'est un moyen. Alors, quand c'est dans un temple, le temple, les autres, ils ont, quand ils font les achats pour la nourriture, tu sais, au temple de Montréal, ils appellent ça comme ça, là, ils vont dire the boga room. C'est la salle du boga. Le boga veut dire la nourriture qui n'est pas offerte à Krishna encore. La nourriture qui est offerte à Krishna, elle devient quoi? Elle n'est plus boga. Elle est prasadam. La miséricorde de Krishna. Alors, pour les dévots, en tout cas, au temple de Montréal, c'est comme ça, ils appellent ça boga room. Il y a une grande chambre froide. Ils mettent tous les aliments qu'ils ont achetés, ça va se garder au frais pendant une semaine, ça sera pas bien, bien long avec les dévots parce qu'ils consomment tout en dedans de au moins 2 semaines, c'est fini. Si c'est pas plus vite que ça. Alors, ils achètent les, par boîte, les fruits, les légumes, le beurre, etc., le lait, les produits laitiers, etc., etc. Alors, boga room et puis prasadam room, ça, ils ont ça aussi. La salle de prasadam, comme ils appellent, c'est là où les gens, les dévots, les invités du dimanche vont manger le prasad, la nourriture offerte à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est un peu comme le yoga d'aujourd'hui. C'est dans la vertu. Ils font tout ça pour du bien, là. Mais le Krishna n'est pas souvent mentionné. Même, je dirais, très rare dans toutes les écoles de yoga, là. Ashtanga yoga, ci et ça, là.
Mais c'est toujours pour le confort du corps, en fait. Même ouais. Là, tu parlais des aliments bio et plus éthiques, mais c'est toujours en rapport avec le corps physique. Mmh. Et on va peut-être monter au mental, comme Madhavananda dit, avec les écoles de yoga. Moi, j'en ai testé plein de petites choses comme ça tout au long de mon existence déjà. Et en fait, on n'est jamais satisfait parce que c'est que rattaché au corps. Il y a pas vraiment un lien avec la conscience. Et donc encore, d'autant plus encore la conscience de Krishna.
Ouais. Et comme Prabhupada écrit dans le livre de Krishna, il y a un passage qui explique les niveaux de conscience. Et le premier niveau, c'est appelé... attends une minute. Annamaya. Annamaya, ça veut dire le niveau de la nourriture. Ça, c'est le niveau, par exemple, des enfants, des nouveaux-nés. Pour eux autres, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir à manger, de s'allaiter, d'être allaité. Ça, c'est Annamaya. Ensuite, tu as Pranamaya. Pranamaya veut dire être conscient que de te protéger de mauvais éléments pour rester en vie. Prana, ça veut dire la vie. Pranamaya. Ensuite, tu as Manamaya. Mana veut dire le mental. C'est la réalité qui tourne autour du mental. Comme par exemple, tu as la poésie, tu vas avoir le théâtre, le cinéma. Ça, c'est...
Désolé.
Pas de problème. Ça, c'est Manamaya. Ensuite, tu en as un autre. Je me souviens plus c'est quoi l'autre. Mais finalement, le dernier, c'est Anandamaya. Ananda veut dire la félicité. Et ça, c'est le niveau de la conscience de Krishna. C'est la réciprocité avec Krishna. Service rendu à Krishna. C'est Anandamaya. Et c'est là que l'âme est vraiment satisfaite avec Anandamaya. Et Prabhupada explique, en ce qui concerne Manamaya, les matérialistes ne peuvent pas dépasser le Manamaya. C'est le niveau du mental. Alors, c'est comme par exemple, tu vois, mettons dans n'importe où, là, c'est à peu près comme ça, là. Dans les grandes villes, il y a des cinémas, il y a des théâtres, puis des grands acteurs, des grandes actrices sont bons, on peut pas dire le contraire. Mais ça dépend, ça va pas plus loin que le mental. Tu sais, tu regardes les films, là, puis l'entendement, le raisonnement des personnages, c'est dans le concept corporel de l'existence. Ça va pas plus haut que le mental. Les niveaux de littérature aussi. Il y a combien de romans c'est écrit à la personne, première personne du singulier, là? J'ai fait ci, je me souviens de ci, je me souviens de ça, mon père et ma mère étaient comme ci, étaient comme ça. Puis là, il te raconte une histoire, mais c'est pas plus haut que le mental. Il n'y a pas de philosophie vraiment. Parfois, tu vas avoir un rare film qui va faire allusion à des enseignements spirituels. Et là, tu dis, ah, oh, wow, là, au moins, il y a quelqu'un qui a pensé à quelque chose qui est substantiel. Même si c'est pas beaucoup, mais c'est un petit quelque chose de spirituel. Et puis ça, ben, ça vaut ce que ça vaut. C'est bon. Parce que des fois, il y a des films où tu vois des dévots de Krishna dans le film. Là, t'entends des dévots qui chantent avec Krishna. Dans le film, le personnage principal, il sort sur la rue, puis ça donne qu'il y a des dévots, à peu près une dizaine de dévots qui sont en train de faire du sankirtan, ils chantent Hare Krishna. Alors, tu vas voir les dévots chanter, tu vas entendre les dévots, tu vas entendre les cymbales. Au moins, tu sais, comme il dit, le ching, ching, ching des dévots. Tu vas entendre ça pendant une ou deux, trois, quatre, cinq secondes, mais tu vas avoir vu des dévots. Et ça, c'est spirituel, c'est pas matériel. C'est pas des figurants matériels qui sont là. Et je me souviens même, lorsque j'étais à Paris, à un moment donné, il y a un cinéaste, en tout cas, pour faire un film, ils ont contacté les dévots pour nous inviter à faire partie du film. Ils voulaient qu'on chante dans le film. Ils nous ont filmé à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Et puis, on faisait partie du film. On n'a jamais vu le film. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme film, on ne sait pas. Mais on nous avait demandé, puis on avait été payé en plus pour chanter dans le film. Alors, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Chanter, payer, c'est pas que tu cherches ça, mais un petit bonus, on va le prendre pour Krishna. On va l'offrir au service de Krishna. Et c'est des choses qui arrivent. Et puis ça, ben, il y a tellement de photos de dévots qui chantent et qui veulent répandre la conscience de Krishna. OK. Là, on va terminer le cours sur ça, à moins que vous ayez des questions, des commentaires. Là, je veux vous inviter à consulter le site aujourd'hui même. Là. Attendez pas à demain. Demain, probablement qu'il n'y en aura pas. Il y a sur dandavat.com. Dandavat.com, il y a l'article qui est mis en évidence là. C'est un temple que ISKCON a ouvert au Bengale, dans un endroit qui s'appelle Diga, D-H-I-G-A. Et ce temple-là, c'est gros, c'est grand, c'est une réplique du temple de Jagannath Puri. Alors, si vous allez voir ça, là, c'est impressionnant. Hein?
Je viens de le mettre là, je viens de le mettre, j'ai un double écran, je viens de le mettre.
Ouais.
Ah ouais, c'est fou.
C'est impressionnant. Et là, si vous regardez le dévot qui parle, là, tu sais, qui est le, comment on dit ça, l'hôte, dans mm-hmm. ce film-là, il dit, tout le monde est admis, tout le monde peut passer la porte du temple, c'est ouvert à tout le monde, venez nous voir. Mais pourquoi tu penses qu'il dit ça, ce dévot-là? Avez-vous une idée? Le dévot, sans le dire, est en train de faire allusion au vrai temple de Jagannath Puri qui restreint les Occidentaux de rentrer dans le temple. Alors lui, il dit, ça c'est une réplique du temple de Jagannath Puri, c'est gros, gros, gros comme temple. Alors ils disent, tout le monde est bienvenu, venez nous voir. Ils disent pas qu'ils font de la discrimination, là. Ils invitent tout le monde.
Mm.
Alors, ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que doit être la conscience de Krishna. C'est pas réservé à un groupe, un tel ou un groupe. C'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment comme ça que la conscience de Krishna, c'est destiné à tout le monde. Ah, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire, ce temple-là. Tu te dis, hey, ça, c'est ISKCON, les dévots de l'Inde qui, puis ça, c'est pas le premier, là. C'est non. Pas leur premier projet, faire des temples comme ça, là. Ils vont en faire d'autres. Il y en a d'autres, des grands projets que les dévots ont fait là-bas. Ah, c'est extra, la conscience de Krishna. C'est merveilleux. Voilà. De juste attirer votre attention là-dessus.
Ça a fonctionné. Merci, Prabhu.
De rien. Ça nous fait plaisir.
Merci.
Alors, prenez soin de vous. Et puis, on va se reparler mercredi ou le samedi dans 2 semaines. Merci avec beaucoup.
Merci
beaucoup. Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Hare Bo.
Hare Hare Bo.
Hare Hare Bo.
Haribo, Jai.
Jai.
Haribo. Bon, ça. Voilà.